Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. On va voyager aujourd'hui, on va voyager entre Chartres et Tours, car il y a du nouveau sur le réseau Rémy. En effet, une nouvelle desserte de train direct entre Chartres et Tours a été inaugurée dimanche dernier en gare de Chartres. C'est un véritable événement, notamment pour les futurs étudiants chartrains qui pourront se rendre sans galère à Tours par le train. Nous avons tendu notre micro à François Baudot, président de la région Centre-Val-de-Loire, et à Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole. Chartres-Tours sans changement, certains disaient que c'était impossible. Eh ben non, ça s'est fait. Ça s'est fait non pas le lendemain, mais le surlendemain, a dit Daniel Guéret tout à l'heure. François Baudot, vous réjouissez évidemment de ce moment.
Particulièrement heureux de cette date du 13 décembre qui vraiment marque une évolution considérable à la fois pour la SNCF, le service SNCF, mais pour la cohésion de la région. Sur le plan SNCF, c'est un aiguillage qui est automatisé, commande centralisée, etc., et qui va permettre à des gens qui étaient obligés par le passé de descendre du train, d'attendre la correspondance, de monter dans le train suivant avec tous les aléas d'une correspondance, de faire aujourd'hui en direct Chartres-Tours. C'est une vraie amélioration de qualité de service, de régularité, et ça va être très utilisé. Le deuxième élément, c'est par rapport à la cohésion, à l'aménagement de notre région Centre-Val-de-Loire. Historiquement, chacun sait que certains disaient ici en Eure-et-Loire, est-ce qu'on serait pas mieux d'être exclusivement dans la région Île-de-France, dans l'orbite de l'Île-de-France, etc. On a été un certain nombre, ici le maire de Chartres et moi à la région très fortement, vraiment persuadés que le lien de Chartres et de l'Eure-et-Loire avec Centre-Val-de-Loire était une très bonne chose pour les Euréliens, était une très bonne chose pour la région Centre-Val-de-Loire. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble pour avoir de belles universités. On a besoin d'être ensemble pour développer nos pôles cosmétiques, nos pôles pharmacie, etc. On a besoin d'être ensemble pour vraiment, à 2 600 000 habitants, compter et ouvrir des voies d'avenir. Et là, c'est quelque chose de très fort, c'est une jonction physique, une jonction du quotidien, un arrimage vraiment définitif par une voie SNCF en continuité entre Chartres et Tours, Tours CHU, Tours Grande Université. C'est fondamental, on se réjouit de ça, c'est de l'aménagement du territoire et c'est une qualité de service pour les Auréliens.
Je suppose, même sur le cloche, Jean-Pierre Gorge, vous êtes heureux de ce moment-là, de cette journée.
Ah oui, très content. Je sais pas si je me demandais si je le verrais un jour. Alors, je suis très content. Je remercie président Bonneau d'avoir été d'une réactivité impressionnante après l'arrivée à Veuve, où je voyais bien que là, on était face à un terminus. Donc, et je vois bien comment on vit dans cette agglomération. Alors, d'abord, première impression que ça me donne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Chartres est rattaché à la région Paris, à la région centre, plutôt que d'être tourné systématiquement vers la région parisienne. Bon, vous savez que c'est un débat permanent ici. Et ce matin, je me sens rattaché vraiment à cette région centre. Ça, c'est important. Alors ensuite, bien sûr, pour toute cette vie étudiante, vous vous rendez compte que pendant des décennies, Daniel Guéret le disait tout à l'heure, on a laissé les jeunes aller sur la route, se débrouiller avec les voitures, la dangerosité de tout ça, ce qui a fait que d'ailleurs, beaucoup sont partis vers l'Île-de-France. Certains m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu suivre des études supérieures à cause de ça. Donc, sociologiquement, c'est très important. Donc on est maintenant raccordé à la vie universitaire. Et puis, Les sous-produits de tout ça, d'abord le premier, c'est la santé, parce que moi je préside les hôpitaux de Chartres depuis 20 ans et cette relation facile avec le CHU nous manque. Au CHU, c'est là qu'on produit des internes, on produit des futurs médecins et cette liaison n'existant pas naturellement, on se dit qu'on est dans un autre monde. Et ça, ça, vous verrez les conséquences de tout ça. Alors derrière, mais tout ce que ça va décliner, cette ligne va être utilisée aussi pour des relations plurijournalières entre Châteaudun et Chartres. Donc la ville sainte ne sera pas coupée non plus des sous-préfectures. Aujourd'hui, entre Châteaudun et Chartres, les moyens de communication, c'est encore la voiture, c'est encore la Nationale 10. Donc voilà, ça va développer un certain nombre de choses, même les activités touristiques. François le disait aussi tout à l'heure, cette ligne, elle va marcher pour quelques trains dans la journée, mais le fret... On va avoir des connexions possibles. Donc, et puis, je pense que tout le monde va être suffisamment créatif pour trouver d'autres encore utilisations liées à tout ça. Les gens qui se battent là pour moderniser la Nationale 10, c'est des coûts énormes. Et là, cette connexion qui n'a pas coûté très cher va permettre peut-être de faire attendre d'autres investissements. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un maire, un président de l'agglo, heureux de voir ce qui se passe. Alors, la grande surprise, c'est que ce matin, je suis venu accueillir la délégation qui est montée en cours sur ce trajet pour arriver à Chartres par le train. Mais en même temps, j'ai vu une multitude de passagers descendre du train, ce que je n'avais pas vu à Voves quand on a inauguré le premier jour. Oui, mais parce qu'on vendait un terminus, mais c'est ce terminus qui permet aujourd'hui d'aller plus loin, d'y aller intelligemment. Et dès le premier jour, il y a déjà beaucoup de monde. On va faire de la publicité sur tout ça, avec les journaux de la ville, de l'agglomération. Le département sera arrosé. Je pense que même Valentin Gambuteau de Dreux qui expliquait tout à l'heure, mais quelqu'un qui est à Dreux, il peut se débrouiller de faire les 30 premiers kilomètres facilement et ensuite prendre le train, retrouver des collègues pour aller à l'université. Donc ça va changer complètement la relation de ce département avec la région centre. Donc voilà, merci au président François Bonneau d'avoir réagi rapidement à mon interpellation à Tours, sachant qu'il y a toujours un projet pour aller à Orléans, mais à mon avis, qui risque de coûter cher, qui est long. Et qu'en attendant, moi, je mets la priorité sur la 154. On est déjà servi largement pour Tours. Ce projet, il ira certainement un jour à Orléans. Mais s'il y a des gens, d'autres lignes à sauver, à développer, je pense que, comme vous savez, les budgets, c'est un jeu à somme nulle. Quand on met quelque part, on ne peut pas mettre partout. Moi, je comprends qu'on puisse attendre et ne pas bloquer des masses financières. Donc voilà. Donc ça va quand même donner beaucoup de liberté à la région aussi dans son développement général. Et nous, vraiment, vivre beaucoup mieux qu'avant.
Le choix du rail, c'est un choix vraiment régional. Tout à l'heure, Léna Garret parle de Chartres, Courtin-Lin, etc.
C'est une priorité régionale. La région centre, c'est pas une grande métropole et puis un désert autour. La région centre, elle a deux métropoles, elle a des grandes agglomérations et sa force, c'est le réseau. Et donc le réseau passe par le rail. C'est la raison pour laquelle je me bats pour la modernisation des lignes du quotidien. Quand le rapport Spinetta proposait de les fermer, on s'engage dans le futur contrat de plan avec un ensemble assez considérable de 260-270 millions pour la remise à niveau de ces lignes du quotidien. Chartres-Courtin-Lin en fait partie. J'ai la conviction que le rail est une chance. Le rail est une chance parce qu'il faut tout faire pour réduire l'impact environnemental des déplacements. Et à chaque fois qu'on prend le train à la place de la voiture, ben on protège la planète. C'est une absolue priorité aussi parce que il faut, pour nos jeunes, pour l'accès aux universités, etc., qu'il y ait une totale mobilité qui ne se tourne pas vers l'Île-de-France dans des conditions extrêmement difficiles. Donc oui, on fait le choix du rail ici pour une région forte, une région unie, une région solidaire.
S'il est un homme que cette création d'une nouvelle desserte de train direct entre Chartres et Tours réjouit infiniment, c'est bien le sénateur Daniel Guéret qui, longtemps conseiller régional de Chartres, avait appuyé dès le début, dès les années 90, ce dossier. Il ne boudait pas son plaisir dimanche en gare de Chartres. Sénateur Guéret, c'est vous l'homme du rail, donc j'imagine que vous êtes particulièrement heureux aujourd'hui.
Très heureux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une promesse de 30 ans qui se réalise, c'est-à-dire raccrocher Chartres et le département d'Eure-et-Loire à une des deux capitales universitaires de la région centre. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, ça a été long, mais je veux envoyer aujourd'hui un message à tous les sceptiques et à toutes celles et ceux qui ont critiqué le combat que j'ai conduit avec d'autres, pour leur dire que nous avions raison, parce qu'à un moment où tout ça se concrétise, tout le monde enchante le faire. Il y a 30 ans, nous étions des imbéciles quand on défendait cette mesure. Eh bien aujourd'hui, on peut dire nous avions raison, mais plus sérieusement, aujourd'hui, ce que nous venons d'accueillir en gare de Chartres, c'est-à-dire le premier direct avec Tours, c'est pour tous les habitants de Eure-et-Loir la possibilité de naturellement profiter, pour les étudiants, bien évidemment, de profiter d'une liaison sécurisée pour regagner et revenir la faculté de Tours, et puis aussi pour toutes celles et ceux qui ont besoin de se faire soigner ou d'avoir des liens avec le CHU de Tours, ce sera une... voilà. Et puis je pense aussi aux gens de Châteaudun qui pourront maintenant plus facilement prendre le train pour venir à Chartres, et puis inversement ceux de Chartres qui pourront aller à Châteaudun, et je pense que ça va complètement révolutionner les usages sociologiques de nos habitants sur le sud du département vers l'Indre-et-Loire. Donc c'est une grande victoire, et je veux saluer François Bonneau, qui est le président de région, qui a compris ça, avec lequel on a pu travailler sur tout ça et qui a réalisé ça. Ça, c'est important parce qu'il faut le dire et il faut que ça se sache. Parce que nous allons continuer naturellement ici sur le pôle gare de Chartres à travailler ensemble. Mais en plus, maintenant, le pôle gare de Chartres, qui était présenté comme étant le nœud d'une étoile ferroviaire, ben, ça prend tout son sens puisque nous sommes réunis avec une autre cité, donc on appelle ça dans le monde ferroviaire les liens intercités entre Chartres et Tours, et donc ça naturellement, quand on est élu ici, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Pierre Gorge, on ne peut être que satisfait. Et je suis aujourd'hui très content pour les habitants de Eure-et-Loire.
C'est vraiment un projet transpartisan, parce que je me souviens au tout départ, vous le disiez, vous étiez peu finalement, et vous vous retrouviez avec les communistes, je m'en souviens, au niveau de la région, c'était assez transpartisan.
À droite en Eure-et-Loire, nous étions deux, moi et Philippe Vigier, et avec Marie-Hélène Aubert. C'est tous les trois qui avons déposé le vœu de la réouverture de Chartres-Orléans à l'époque. Et nous nous sommes confrontés à l'hostilité militante et ardente du monde politique de l'époque, et qui ne comprenait pas ce qu'il qualifiait d'imbécilité dans notre démarche. C'est parce que nous avions compris très tôt, en 93, que l'histoire de la 154... ça se terminerait mal, c'est-à-dire que nous ne l'aurions pas en deux fois deux voies gratuitement, et on a eu raison. Aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que nous allons avoir la concession autoroutière, et à l'époque, on disait, il faut du train, parce que le train, c'est la sécurité, c'est aussi l'irrigation de toutes les communes. Après, on va travailler naturellement sur des arrêts, hein, on va travailler sur des arrêts, des pertinences d'arrêts. Mais on a développé à l'époque ces arguments. À l'époque, ça ne passait pas bien, mais on n'a pas cédé. Donc, on a décidé de travailler effectivement avec la majorité socialiste et communiste de la région centre. Et on nous a reproché d'avoir passé un deal. J'ai revendiqué cette entente avec François Bonneau. Ça avait commencé avec Michel Sapin. Et j'ai complètement assumé ça parce que je considère que sur ces projets d'aménagement du territoire, il faut, oui, transcender les clivages politiques. Parce que les projets ferroviaires, déjà, c'est compliqué. C'est très long. Si vous y ajoutez...
C'est technique.
C'est très technique. Et si vous y ajoutez, il y a aussi des femmes et des hommes qu'il faut convaincre. Et si vous y ajoutez une dose de politique politicienne, eh bien, vous n'y arrivez pas. C'est fichu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs c'est ce qui est la raison que dans beaucoup de projets en France, ça n'aboutit pas. Parce que la première difficulté, c'est de trouver un accord autour duquel tout le monde se rassemble. Et il faut que ça dure, quels que soient les épisodes politiques. Alors, c'est ce que nous avons réussi à faire. Et avec Jean-Pierre Gorge, nous avons assumé ça avec François Bonneau. Parce que ça nous paraissait plus important de devoir mécontenter quelques-uns sur le plan politique et d'aboutir à ce que les projets puisse sortir de terre. Celui-là, on est un aujourd'hui qui sort de terre, et il faut maintenant que la SNCF et la région vendent ça à l'opinion publique, mais je pense que c'est quelque chose qui peut véritablement être un atout pour les gens d'Eure-et-Loir.
Et puis c'est l'impératif écologique, finalement.
Alors, aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'impératif écologique. C'est aussi une manière de renforcer la ligne Paris-Tours. La ligne Chartres-Courtalin, je l'ai tout à l'heure précisé, a été sauvée aussi de la disparition dans les deux ans qui viennent de s'achever. Le pari écologique, c'est maintenant aussi de conduire ces lignes, Paris-Tours et Chartres-Courtalin, vers la transition énergétique. Parce qu'il faudra aussi que un jour, lorsque nous serons au point sur les questions d'hydrogène, c'est pas demain matin, il faudra que ces lignes soient au rendez-vous de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il faut d'ores et déjà maintenant travailler sur la seconde étape pour pérenniser ces lignes dans le temps et dans le timing de la transition énergétique.
Merci Nalka. Heureux au Sénat ?
Oui, heureux au Sénat parce que c'est une fonction qui me permet au plus haut niveau d'exprimer ce que j'ai à exprimer. J'ai eu il y a quelques jours l'occasion de le faire directement auprès du président de la SNCF en commission aménagement du territoire. Les auditions que nous avons sont d'une très très haute qualité. Je peaufine mon apprentissage sur une multitude de sujets. Oui, c'est très intéressant et j'y suis aussi pour ne pas changer, c'est-à-dire aussi porter les idées qui sont les miennes.
Le sénateur de Chartres, Daniel Guéret, mais aussi et surtout l'homme du rail.
Le train qui s'en va en Louisiane. On m'appelle la Nouvelle-Orléans. Je lis les villes du Nord avec les champs du Sud. Depuis la vieille guerre de sécession. Fermez les portières, s'il vous plaît, en voiture pour le soleil. Champ de tabac et de coton. Une plantation, une épicerie, le rocking chair sur la galerie, riche ou pauvre, ici la vie fait bon. C'est bonjour, comment ça va l'Amérique? Je suis ton fils, ne me reconnais-tu pas? C'est moi le train qui s'en va en Louisiane. Je serai loin quand le soleil se couchera. Dernier wagon, il avait une partie de cartes. On visait l'argent, personne comptait les points. Passe-moi la bouteille, Adam, je suis sec. Par terre, j'entends gronder les roues du train. Et tous les fils des cheminots de la voie ferrée prennent le tapis d'acier volant de leur papa. Tandis que les mères, avec leurs bébés, vont balancer, c'est la berceuse du central illinois. C'est bonjour, comment ça va l'Amérique? Je suis ton fils, ne me reconnais-tu pas? C'est moi le train qui s'en va en Louisiane. Je serai loin quand le soleil se couchera. Même aussi dans le Tennessee, on sera rentré avant que le jour se lève, en suivant le Mississippi. Mais tout d'un coup, le chemin de fer s'effondre dans un rêve.
et les vieux rails s'en sont pas perçus. Monsieur le contrôleur chante son blues une dernière fois, il sait que le train ne revient plus. C'est pas lui, comment ça va l'Amérique? Je suis ton fils, ne me reconnais-tu pas? C'est moi le train qui s'en va en Louisiane, je serai loin quand le soleil se lèvera.
Une chanson en forme de clin d'œil, vous aurez sans doute reconnu Roger Mason, Le train de la Louisiane. Notre second sujet du jour, eh bien, il nous est présenté par Aurégane Texier.
Le coup d'envoi des festivités de Noël a été lancé le 4 décembre dernier à Chartres. Décorations et lumières illuminent la ville à la tombée de la nuit, et ce, jusqu'au 3 janvier 2021. Malgré un contexte sanitaire compliqué, la ville de Chartres, en partenariat avec l'association des vitrines de Chartres, ont préparé une saison de Noël 2020 sur mesure. Rencontre avec Laurent Luilerie, conseiller municipal délégué à l'animation et à la politique événementielle, et Juliette Pichot, présidente de l'association des vitrines de Chartres.
L'idée, c'est de faire quand même quelque chose qui sorte un petit peu des gens du marasme ambiant.
Une volonté de faire de ce Noël 2020 un Noël solidaire avec l'opération des chèques cadeaux lancée début novembre par votre association, Juliette Pichot.
En effet, le principe est simple. Nous mettons en vente 2000 chèques cadeaux de 20 euros. Qui sont vendus sur le site des vitrines de Chartres, www.vitrine-chartres.com, et nous abondons de 10 euros supplémentaires chaque chèque cadeau.
Et pour la première fois, les vitrines de Chartres organisent un calendrier de l'Avent, mettant à l'honneur plusieurs commerçants locaux. En quoi ce calendrier de l'Avent consiste-t-il ?
Eh bien, un jour, un cadeau et puis tout un tas de cadeaux, 24 cadeaux sur ce calendrier de l'Avent. Le principe est simple, offrir aux joueurs de ce calendrier de l'Avent des produits qui sont vendus dans notre cœur de ville. Il y a également des petites surprises comme des heures de parking à gagner. Et un calendrier de l'Avent qui se fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Et puis il y aura une surprise sur Instagram, un calendrier de l'après.
Malgré le contexte sanitaire actuel, il y a tout de même quelques nouveautés pour cette saison 2020. Parlez-nous-en.
On a mis quelques illuminations avec des gens qu'on a l'habitude d'avoir au moment de la fête de la lumière. Tilt, donc c'est des structures qui sont des structures fixes et qui représentent des grands végétaux. Un petit peu comme des bambous, enfin il suffit d'aller voir Place des Épars. Les structures de Monique Lamouche sont des structures qu'on a déjà fait venir dans le jardin André Gagnon, qui sont des structures métalliques avec de la lumière à l'intérieur, une mise avec en lumière avec du feu.
Et alors cette année, ce n'est pas un sapin, mais trois sapins qui seront visibles dans Chartres. Où seront-ils ?
Il y en a plus que ça, parce qu'il y a des plus petits, mais sur les grands, il y en a un qui est à la Porte Guillaume, qui est un sapin qu'on avait sur la place Marceau l'année dernière. Il y a un grand naturel, parce qu'on tient à avoir nos sapins naturels, place Marceau et un sur le parvis de la cathédrale.
Le village de Noël est tout de même maintenu pour le plaisir des petits et des grands, mais il est dans des conditions particulières. Quelles sont-elles ?
Le respect d'un protocole sanitaire strict, une entrée, un sens de circulation qui amène à une sortie, la désinfection par gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie bien entendu. Et puis, pas de regroupement sur ce marché de Noël de plus de 6 personnes. La vente à emporter sera privilégiée et fait partie du protocole. On aura le droit de consommer des articles alimentaires et des gourmandises sur le marché de Noël, mais en vente à emporter uniquement.
Le village se tiendra donc du 11 au 24 décembre. Mais est-ce que le Père Noël sera présent ?
Oui, le Père Noël, bien entendu, sera présent. Alors, encore avec des particularités sanitaires cette année, on ne pourra pas se mettre sur les genoux du Père Noël pour faire une photo.
Alors, la cathédrale va s'illuminer. C'est Étienne Guillol, enfant du pays chartrain, qui l'a conçu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mapping de Noël ?
Alors, c'est un mapping haut en couleur qui sera diffusé sur le portail royal. On pourra avoir tout un tas d'illuminations avec ce mapping, des étoiles, et je vous laisse la surprise parce que en parler c'est bien, le découvrir en réalité c'est beaucoup mieux.
Merci à vous Juliette Pichot et Laurent Lullerie. Pour plus de renseignements sur les animations de Noël 2020 à Chartres, rendez-vous sur le site internet de la ville, chartres.fr, ou sur le site internet des vitrines de Chartres, vitrines-chartres.com.
Aurégane Texier, qui est étudiante en école de journalisme à Lannion, qui est notre stagiaire depuis déjà quelques temps. Voilà, cette édition d'Écho de ma commune et de mon canton se termine. Nous avons rendez-vous pour une prochaine édition dans 4 semaines. D'ici là, j'espère que vous nous resterez fidèles, surtout en cette période de fête de fin d'année. Je vous embrasse et à dans 4 semaines.
Savez-vous ce que c'est qu'une vie pour rien ? Une vie où tous les rendez-vous se sont cassés la gueule sur des quiproquos, des erreurs de standardistes, des faux horaires de train. Vie impasse et joyeux gogo du cul-de-sac, avec flics casqués qui barrent l'unique issue. Entrée d'immeubles bouclés et des bourgeois aux fenêtres qui bouffent des biscuits. Vous gueulez tout au fond de vos têtes des appels de vie. Je veux être, regardez-moi, j'existe. Mais vous ne savez rien de tout cela parce que sur vos agendas, il y a des noms, des adresses, des épancheuses de mélancolie, et vous ne saurez jamais l'angoisse d'être différent. Fumez un cigare de Cuba et dites-vous bien que nos vies sont des cartes postales, sans plus. 5 mots. Tout va bien, baiser, salut. Dans les rues qui vont des aéroports aux Arcs de Triomphe, il y a des fumées d'encens. La vie est à ceux qui savent engouffrer les mots du langage dans des regards simples. Il ne faudrait surtout plus avoir peur d'aller dans des maisons inconnues et monter des centaines d'étages de misère ensemble. Ensemble. Savez-vous ce que cela signifie ? Nous avons miséré ensemble et je l'aime. C'est ce que disait un vieux type aux cheveux de la guerre d'avant. Et il faut que nous misérions ensemble dans des ascenseurs quotidiens. Si un jour il n'y avait plus de mots construits, que toutes les langues d'hommes pourrissent au fond des bouches, derrière des baillons noirs d'oppression, il faudrait bien inventer des langages de peau et des langages codés du regard. Les yeux ne sont pas faits pour recevoir des arcs-en-ciel et des bouts de pellicule en Eastman Color. Il faut dès à présent leur apprendre à émettre de longues lettres de bienvenue. Respirez. Regardez. Dans les souterrains qui relient les maisons aux autres maisons, il y a des fleurs de coca qui pétillent sur des escalators. Et si d'un gouvernement à un autre gouvernement, nous n'avons pas pris le temps de transformer notre façon de tendre la main, c'est qu'un autre gouvernement ne peut rien pour nous et qu'il n'était pas aussi important que cela qu'il ait changé. Inventons des connivences. Écoutons, respirons. Respirons avant que l'air ne soit coupé et qu'il débarque nous ramasser étendus et blancs au pied de nos électrophones. Ils sont maîtres de tout. Le fric maîtrise l'oxygène. Inventons des gaz de pensée et branchons nos bouches sur d'autres bouches. Il est urgent d'inventer les nouvelles recettes de vie qui échappent aux cartes perforées de la police d'État. Respirons. Chantons. Et il faudra alors marcher inlassablement, bras tendus vers d'autres corps, bras ouverts, et intercepter tous ces obus d'hommes tombés des gratte-ciels de Montparnasse.